Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Cahors, par exemple, sur 105.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure par téléphone Julie Laudet, propriétaire du château Labal et le Vino Quiz pour gagner un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine. Il faudra jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Tout va bien? Vous avez bien dormi depuis hier? Vous avez passé une petite soirée sympa samedi?
Bah écoutez, oui, j'essaie de ne pas avoir trop de cernes, ça me va tout.
Oh,
bien.
Vous êtes belle comme un cœur. Et Philippe Aubrac qui est beau comme un cœur aussi. Bonjour Philippe. Vous
Bonjour.
Êtes président de la sommellerie française. Tout va bien depuis hier également, Philippe?
Oui, on essaie de cerner nous aussi, mais les sujets.
Oh, c'est bien ça. Pour commencer cette émission, nous allons cerner à bord de Invino Sud Radio Séverine Bourrier, propriétaire du château de Loup. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Alors comment se porte l'œuf en catalan ce beau mois de janvier?
Eh bien écoutez, l'œuf se porte à merveille, il fait un temps magnifique, un peu froid mais c'est ce qu'il faut.
Oh là 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 là. Alors vous êtes dans quasiment le plus beau pays du monde, hein. Vous êtes dans le Roussillon, là. Vous êtes entre les Catalans, les Gavatches, racontez-nous.
Exactement, exactement, le terroir de rêve, le diamant tout juste taillé, le Roussillon, le plus beau terroir de France, l'un des plus beaux terroirs de France.
Alors racontez-nous votre histoire.
Excusez-moi, vous êtes modeste en ce début d'année.
Absolument, absolument.
Est-ce que c'est le monde qui est offert aux Catalans, non?
Ouais, il faut assumer ses convictions. Bon, et alors, surtout que je ne suis pas catalane du tout, donc j'ai encore...
Vous êtes d'où?
Je suis bordelaise, moi.
Ah, mais très bien. Vous êtes tombée raide amoureuse d'un catalan, j'espère.
Exactement.
Oh, le bon mélange. Alors, racontez votre histoire de vin à tous les deux. Là, que ça commence quand et ça finit quand? Dans 3 siècles? Racontez-nous.
Bah, écoutez, ça nous enterrera, j'imagine. Mais bah, écoutez, Philippe est ingénieur agronome, lui, de métier. Et puis moi, j'ai fait mes études d'œnologie à Bordeaux. Donc, un savant mélange des deux et une rencontre autour du vin.
Hélène?
Alors, une rencontre autour du vin, après beaucoup, beaucoup de voyages, hein, puisque vous avez vous-même passé votre enfance en Afrique.
C'est ça.
Et puis Philippe a également énormément voyagé.
Tout à fait, au Brésil, beaucoup, durant ses jeunes années.
et alors un jour, retour au pays, bon, finalement chérie, on s'installe là, nulle part ailleurs, tu ne bouges plus.
C'est ça.
C'est un peu violent.
Ça. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on vend quand même 70% de nos vins à l'export, donc c'est vrai que je voyage beaucoup.
Ouais. Alors vous êtes sur quelles appellations, racontez-nous?
Alors on est sur les appellations Côte du Roussillon Village et IGP Côte Catalane. Donc, pour faire les 3 couleurs, blanc, rosé et rouge, et bien sûr, les appellations qui sont également des vins doux naturels, donc Muscade Rivesaltes, Tuilet, Ambré, Grenat et Maury.
Philippe Forbrac, petit point technique, les vins doux naturels, d'abord, est-ce qu'ils sont si naturels que ça, les vins doux naturels?
En tout cas, ils sont doux, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup, pas mal de sucres résiduels, hein, autour de 100 grammes un peu en moyenne. Hein. C'est un vin issu d'un process particulier, puisqu'on arrête la fermentation, hein, avec un certain nombre de sucres résiduels, donc, en rajoutant de l'eau de vie à l'intérieur. C'est un process qui d'ailleurs est très local, parce que c'est Arnaud de Villeneuve, qui était originaire de ce coin de France, hein, pas loin de Navarre finalement, qui a mis au point ce process à la fois de distillation et d'arrêt de la fermentation. On parle de mutage parce qu'effectivement on a l'impression d'arrêter le son absolument dans la cave. C'est vrai que quand on mute les cuves, et Séverine nous le confirmera, il y a du bruit, il y a la fermentation qui est là, c'est assez dynamique, puis tout d'un coup,
oui,
il n'y a plus de bruit du tout.
Ça
s'arrête. Effectivement, ça s'arrête. On calme à la fois le vin, un peu les esprits,
oui, c'est ça,
avant de consommer, là, les esprits renaissent.
Séverine, votre cave, elle est basée où physiquement?
Alors physiquement, elle est sur Montesco, une commune qui se situe à 10 km au sud de Perpignan et 10 km de la mer.
Hélène?
Effectivement, un endroit magnifique, sur une grande superficie, hein, vous avez près d'une 40 hectares.
Un peu plus, là on est sur 70 aujourd'hui.
Ah oui, mais il y en a 30 qui m'ont échappé, vous venez
c'était
de les
pour
acheter
Noël, c'était pour Noël,
c'est
pour
ça,
Noël.
C'était votre cadeau de Noël.
Non, en fait,
les étrennes de début d'année.
Vous n'avez pas tout à fait tort, 30 sur le site principal où nous sommes, hein, d'un seul tenant, et ensuite sur la vallée de la Glie, où nous avons les 30 hectares restants.
D'accord. Alors, ça nous amène directement justement à vos différentes cuvées. Il y a les cuvées de rouge, on va dire, plus ou moins classiques, et puis il y a les rancios. On va quand même commencer par les rouges classiques. La cuvée emblématique, le Château de Loup rouge.
Oui, alors c'est notre cuvée signature, c'est vraiment notre savoir-faire maison. Hein. C'est une cuvée qui a pour but vraiment de travailler sur des vins plaisir, donc de la gourmandise, du fruit, des vins qui ont une très jolie matière avec 3 à 4 semaines de macération pour nos raisins, mais qui va être une cuvée extrêmement accessible, voilà, qui a pour premier but de donner du plaisir et vraiment une belle identité du Roussillon.
Bah c'est exactement ça, hein. C'est fruité, c'est joyeux, c'est croquant, ça coûte 11 euros. Franchement, super rapport qualité-prix. Moi, c'est l'une des deux cuvées avec lesquelles je vous ai connu, par lesquels je vous ai connu, et franchement, c'était l'un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai vu depuis un moment.
Magnifique. Syrah, Grenache
qui et Mourvèdre.
Et Mourvèdre un peu.
Voilà, Mourvèdre selon les millésimes, effectivement, et tout ça en bio, puisque nous sommes en agriculture biologique depuis 21 ans maintenant, sur l'ensemble du vignoble.
Voilà. Et puis, alors une autre cuvée qui est aussi d'un très très chouette rapport qualité-prix, même si elle est plus chère, elle est à 20 euros, c'est l'Infiniment. Racontez-nous pourquoi Infiniment.
Alors Infiniment, c'était la première grande cuvée que nous avons faite en 2005. Le premier millésime de cette cuvée, c'était 2005. C'était un petit point d'honneur, un petit point d'arrêt où nous avions fait le tour de toutes les parcelles du domaine, où nous avions créé toute notre gamme, pris en main toutes les parcelles du domaine, parce que ben forcément, quand on a acheté en 98, donc le temps de s'approprier, rénover, ça prend du temps. On a droit qu'à une récolte par an, donc tout ça, c'est long. Donc il faut de la patience. Et Infiniment, c'était un petit point d'orgue pour montrer qu'on était capable de faire de très jolis vins, même sur la plaine du Roussillon, puisqu'à l'époque, on était exclusivement situé sur la plaine du Roussillon, donc sur les marnes alluvionnaires et les galets roulés du Roussillon. Et c'est une cuvée qui est vinifiée donc en vinification intégrale. Donc on va travailler au cœur de la barrique, on va rentrer les raisins directement dans les barriques. C'est un process de fermentation que j'ai développé moi en Roussillon. Donc on va se servir de la barrique comme d'une cuve en fait. Et cela a pour but non pas nécessairement de boiser, mais d'accompagner la puissance et la matière, puisqu'on travaille sur des tout petits rendements en Roussillon. Chez nous, hein, on est sur des rendements moyens de 20-21 hecto-hectares.
Oui, donc c'est tout petit, hein, Philippe Forbach. Voilà. Dans d'autres régions, on peut arriver vers combien? Enfin, même dans la plaine de Roussillon, là, on est quand même largement supérieur.
Ah oui, on peut faire le double facilement.
Ouais, facile, voire parfois le triple. Dites-nous, au niveau de l'exportation, là, parce que vous vendez vos vins aux quatre coins du monde, c'est ça? Vous avez choisi délibérément d'aller voir à l'international? Vous avez choisi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, on a choisi parce qu'on a subi un petit peu le marché français il y a 20 ans.
Qui n'était pas mature, qui n'était pas prêt, qui avait une réputation qui n'était pas terrible. Quoi. C'est ça que vous voulez dire?
Par rapport à l'image.
Exactement, par rapport à l'image qu'avaient les vins du Roussillon. Et en plus, en agriculture biologique, on cumulait deux handicaps,
oui,
donc,
c'est vrai,
pour l'époque. Donc ça a été un long chemin. Et à contrario, à l'export, notamment en Europe, l'Allemagne, les pays frontaliers qui nous entourent, hein, la Belgique, le Luxembourg, c'était des pays beaucoup plus matures sur ces réseaux-là. Donc on a commencé par aller se vendre ailleurs et puis
revenir en France après quoi. Combien de bouteilles au total sur les 70 hectares, ça en fait des bouteilles, hein?
160 000 bouteilles.
Ah oui, donc faut bosser quand même, hein,
il faut les vendre.
Qui bosse, c'est Philippe ou c'est vous? Parce que généralement, le Catalan, il se repose tranquille, il attend l'apéro, là. Et, non, c'est pas ça?
C'est pas complètement le genre de
je dis ça en tant que Catalan, donc j'assume. Hein, c'est pas vrai, en plus. Hein.
Monsieur Martin, c'est l'heure de l'apéro.
Oui. Ah, voilà, on entend Philippe,
qui est
pas loin, là. Il a mis un peu de temps, là, mais il est reparti, quoi.
Donc, il dit que c'est un art de faire travailler les autres.
Ouais, ça, c'est vrai. Alors, comment vous avez trouvé, d'ailleurs, le pays catalan en tant que bordelaise, là? Parce que c'est quand même un pays avec cet accent rocailleux qui est particulièrement attendrissant, non?
Oui, attendrissant, et puis qui est doté de terroirs extraordinaires, un climat fabuleux, hein, 300 jours de soleil par an, 400 mm de pluie, 180 jours de vent, donc ça, il faut le supporter, mais c'est aussi ce qui nous donne cette merveilleuse lumière, et puis qui donne à ces vins leur singularité, et qui permet malgré tout de garder de belles fraîcheurs sur les terroirs en altitude.
Hélène ?
Alors, une autre grande particularité de la région, à part son vent absolument décoiffant,
c'est pour ça que tout est bio dans la région, on a besoin de rien faire, c'est naturel. Vraiment bio.
Et que les gens sont tous chauves parce qu'ils n'ont plus de cheveux.
Ils sont chauves, ils sont bio et chauves. Quoi. Est-ce qu'il a des cheveux, Philippe, votre mari d'ailleurs?
Devant, mais plus beaucoup derrière.
Ah ben voilà, donc il prend la tramontane du mauvais côté. Quoi.
Bon, alors, parce qu'il y a 180 jours devant, il y en a autant derrière.
Ah, moi, c'est malin, ça, tiens. Bon, alors, moi, ce que je disais de façon beaucoup plus raisonnable, c'était que l'autre spécificité de la région, c'était ses rancios. Et c'est vraiment, voilà, quelque chose qui est de... Ce sont vraiment des cuvées à part, sur lesquelles on ne se penche pas assez, alors qu'il y a d'absolues merveilles. Parlez-nous un peu des vôtres.
Oui, alors c'est vrai que c'est, ce sont des vins qui ont été délaissés parce que méconnus très souvent.
Plus très à la mode peut-être, c'est une réputation aussi, de vin de vieux parfois à une époque.
Oui, oui aussi, et puis parce que c'était des cuvées assez intimistes la plupart du temps dans tous les domaines. On en faisait par tradition familiale, par habitude, mais pas, on ne les présentait pas nécessairement aux clients. C'était souvent des cuvées qu'on gardait pour la famille, pour les amis, etc. Donc ce sont des cuvées qui sont restées dans l'intimité et qui ont souvent été d'ailleurs un peu masquées par les vins doux naturels dans cette région, par rapport au volume qui était produit. Donc les rancios sont des vins qui sont travaillés sous oxydation. Donc on va travailler sur des vins la plupart du temps secs, en tout cas pour ma part.
Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Forbach, travailler sous oxydation?
C'est-à-dire qu'on travaille en fût, pour faire simple, en utilisant la micro-oxygénation, la porosité du bois, quelque part, pour les élever.
C'est ça, c'est naturel ou c'est pas naturel?
Alors, c'est un process, oui, c'est un process naturel, le bois étant étanche, pas étanche, je veux dire, justement, mais laissant passer un petit peu d'oxygénation. Donc, on travaille effectivement ce niveau d'oxygénation pour obtenir ce fameux goût de rancio. Et c'est intéressant, c'est la démarche de le faire sur des vins quasiment secs.
Oui.
Voilà,
ce
alors,
qui permet effectivement, gastronomiquement parlant, notamment de donner des possibilités extraordinaires.
Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on le fait sur des vins qui ont du coup des degrés assez importants, ce qui permet d'avoir des vins qui vont tenir sans problème éventuellement assez. Mais surtout, on a aussi des développements comme sur les vins jaunes, par exemple, de voiles oxydatifs.
Et oui.
Donc, comme on est dehors, hein, à l'air libre, ce sont des rancios qui sont élevés à l'extérieur, au soleil, au vent, à la pluie. Donc, on va créer des chocs thermiques importants et qui vont du coup nous permettre d'avoir à la fois une complexité aromatique et un équilibre qui reste intéressant.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bravo à Séverine. Une bise à Philippe aussi. Hein. On viendra vous voir dans ce beau pays catalan. Hélène Pio également, on vous salue. Philippe Forbach aussi. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. On aura bien sûr le Ville Quiz pour gagner plein de choses, notamment des coffrets 3 bouteilles de Bandit de Loire et également des coffrets Divine.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, notre compte Instagram, Invino, pour Sud Radio d'ailleurs, pour nous indiquer les vignerons que vous aimez, les favoris, les chouchous. On retrouve Philippe Forbach, auteur de l'ouvrage Accord Vins Aimés chez EPHN, pour le Vino Quiz.
Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine et le livre Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. La question de ce week-end, quelle est l'approche de l'artisan vigneron Jean-Louis Denois? Réponse A, oser l'équilibre. Réponse B, oser le partage. Réponse C, oser le sans-souffre. Pour répondre, on vous le souhaite, gagner le coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, le coffret Divine et le livre « Nos tourismes et spirituels en France et dans le monde » aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et nous espérons que vous soyez tirés parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe Forbach. Invino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Julie Laudet, copropriétaire du château La Balle. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors racontez-nous, vous avez commencé à Barcelone pour être aujourd'hui en Armagnac. C'est quoi votre grande histoire d'amour et de vin avec Cyril?
Oui, en fait, ça a vraiment commencé même à Carcassonne, on s'est rencontrés.
En haut de la cité, il y avait un chevalier, voilà, un pro-chevalier là.
C'est ça, c'est ça. Et puis, plusieurs les histoires, les chemins nous ont menés à Barcelone pour, on était plus jeunes, pour faire des expériences professionnelles plutôt de mon côté. Lui travaillait en Corbière et du jour au lendemain, le grand-père de Cyril a décidé d'arrêter la production au domaine puisqu'il avait 80 83 ans, si ma mémoire est bonne.
C'est un âge raisonnable pour la retraite.
Voilà, mais en Armagnac, vous savez...
Ça conserve, quoi. C'est...
Ça conserve.
Parce que la famille, là, elle est dans le coin depuis 1820, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, la famille Laudet est à la balle depuis 1820. Jean-Dominique Laudet, c'était son rêve de faire de l'Armagnac.
Et donc le grand-père a annoncé ça un jour de Noël, non ? Pendant un déjeuner de Noël ?
Presque. C'était pas tout à fait ça, mais ça aurait pu, ouais. Non, du jour au lendemain. Donc Cyril, ça a toujours été son but de revenir à la propriété et de continuer à transmettre et à écrire l'histoire de la famille, puisque lui, c'est la 8e génération et il voulait continuer à perdurer cette histoire.
Ah, c'est une jolie histoire. Voilà. Hélène ?
Et alors, Cyril vous rencontre.
Tombe amoureux.
Et l'histoire.
Il est tombé amoureux tout de suite ou il a pris un petit armagnac pour donner du courage ?
Coup de foudre direct.
Oh là, coup de foudre, ça c'est un jeu de mots, notamment à Bagnos.
C'est ça, qu'est-ce qu'on rigole. Et alors, racontez-nous aujourd'hui comment vous vous répartissez les rôles, Cyril et vous ?
Du coup, aujourd'hui, après 10 ans de travail en commun, on est vraiment complémentaires. Ça a été une évidence dès le départ. Lui, beaucoup plus sur la production et la partie agricole, et moi, plus sur l'organisation, l'administratif, bien entendu, mais aussi tout ce qui est image et développement du domaine que je fais avec Cyril également. Hein, mais on est vraiment répartis de cette façon-là, ouais.
Alors, puisqu'on parle d'image du domaine et d'image de l'Armagnac, vous vous affairez avec d'autres producteurs à dépoussiérer cette image qui justement était un peu attachée au grand-père pendant pas mal de temps. Et notamment, vous avez lancé Armagnac is back.
Ouais, c'est notre petit mantra. C'est un petit slogan qu'on a sorti il y a 3-4 ans. Nous, on n'a pas trop de plaquettes, de brochures, de papier traditionnels.
Vous avez un site internet peut-être, non ?
Oui.
Alors, c'est quoi votre site d'ailleurs ?
Donc, c'est labal.fr.
Labal, comment ça s'écrit, Labal ? Parce que parfois.
Ouais, Labal.fr, comme une balle. .fr, mais on est plus sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Un peu plus à jour. Ouais. Et oui, Armagnac is back, c'était une façon, du coup, on a sorti des suites pour placarder cette petite phrase dessus et faire la promotion, on va dire, de l'Armagnac avec un grand A, même si, bien sûr, le suite est signé la balle, mais c'était l'idée de sortir l'Armagnac, justement, autrement que, comme vous venez de le dire, cette image un peu poussiéreuse. Hein.
Et cette Armagnac is back, c'est d'abord illustré à travers une gamme 3, 12, 21.
Ouais, parce qu'en fait, le constat au départ, quand on a commencé à faire les salons, c'était assez frustrant d'avoir les retours des personnes. Oui, mais moi, les cavistes, par exemple, pour ne pas les citer, j'ai déjà, non, mais les Armagnacs, j'en ai un ou deux, ça suffit. On s'est rendu compte, en fait, que c'était pas très dynamique, que c'était pas demandé. Bon, on le savait, mais, et que les gens avaient du mal à le repositionner. Donc, on s'est dit, on va casser complètement les codes, on va rentrer vraiment dans une écriture du spiritueux.
Oui, genre plutôt whisky peut-être.
Voilà, entre le whisky et le gin, je dirais.
Oui. Exactement. Des choses qui sont dynamiques aujourd'hui, et qui sont vues, et qui sont présentées, et qui sont bues. Donc voilà, on a
plus moderne, complètement quoi. Vous avez quand même des vieux millésimes ou pas ? Parce que depuis 1820, ça n'est passé les vendanges.
Oui, on a des vieux millésimes. Le plus vieux, c'est en 1900.
1900 oh là, combien vous vendez une bouteille de 1900 ? Faites-nous rêver.
Ouf, là, non, ouais, c'est. J'ai
1900 euros, dites 1900, c'est pas. On doit pas très loin, non.
Un peu plus même.
Plus que 1900.
Ouais, c'est de l'or.
Il vous reste combien de bouteilles ?
C'est un trésor. On a un magnum.
Oh là là, bon, je rappelle le code de votre cave personnelle, donc le 2, le 4. Philippe Forbach, l'Armagnac, comment ça se passe ? On le distille, il y a une distillation, il y en a 2, il y en a 3, comment ça marche ?
Il faut faire les 2, mais en général, il y a une seule distillation. Hein. C'est la technique qui est différente de celle de Déconiac, qu'on est amené à comparer souvent. Mais ça n'empêche pas que, voilà, on dit que, c'est ce que dit toujours
chacun
David Cobol. Hein.
Oui.
Il dit que le cognac, il est obligé de le faire 2 fois parce qu'effectivement, la première fois, il loupe. Alors que l'Armagnac le réussit du premier coup. Et donc, la distillation est un peu différente, mais l'esprit est le même, finalement, avec des terroirs qui sont effectivement différents. On est plus sur des sables, par exemple, au niveau du secteur d'Armagnac, même s'il peut y avoir d'autres types de géologie, alors qu'on est plus sur du calcaire, sur le côté, effectivement, cognac, ouais. Ce qui peut influencer.
C'était pas gagné de faire du vin, Hélène, hein ?
Non, c'est dans cette région-là, effectivement, ça ne l'était pas, mais au domaine de Laval, ils ont les deux. Il y a le vin blanc et il y a l'Armagnac. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment sur l'Armagnac que j'ai envie de revenir aujourd'hui, parce que ce renouveau, cet Armagnac is back, vous le disiez, c'est illustré donc par des bouteilles beaucoup plus modernes. Et puis, d'ailleurs, tiens, pourquoi 3, 12 et 21 ?
C'était pour sortir des comptes d'âge. Donc, en fait, dans cette gamme, on a voulu montrer l'évolution, l'importance de l'élevage sur l'Armagnac. C'est-à-dire que ce sont des 100% unis blancs en degrés naturels et couleurs naturelles. Et donc, on a travaillé sur des assemblages qui avaient des couleurs différentes, donc plus claires quand c'est jeune, puisque c'est le bois qui donne la couleur au jus, à l'Armagnac.
Oui.
Et avec des degrés qui baissent au fur et à mesure de l'âge, c'est-à-dire que le jeune est à 47 degrés et le 21 ans tombe à 41 degrés. Voilà, pour expliquer un peu, c'était un côté un peu pédagogique, on va dire éducatif, ludique, bon, simple, hein, mais pour avoir cette gamme sous les yeux et que ça soit une évidence.
Ouais. Hélène ?
Alors, il y a une autre cuvée qui est super intéressante chez vous, c'est la cuvée Résistance, lancée en 2019. Une cuvée, un assemblage 100% du cépage Baco. Et alors, racontez-nous pourquoi Résistance ?
Alors, cette cuvée est née de l'envie, justement, de retrouver une identité armagnacaise à 100% pour ne pas être comparé à nos cousins le cognac, on va dire. C'est vrai que c'est difficile toujours de devoir se défendre alors qu'on a vraiment des terroirs et un savoir-faire aussi en Armagnac. On reste une eau de vie de raisin, mais tous les deux. Mais... Donc, du coup, Résistance, c'est... Et du coup, on est parti du cépage le Baco. C'est un cépage qu'on va retrouver uniquement en Armagnac aujourd'hui, qui a été créé par un instituteur landais, donc François Baco, et qui a été créé quand le phylloxéra a détruit l'ensemble du vignoble français.
Et au niveau commercialisation, dites-nous, Julie, vous exportez un peu, parce que c'est vrai que on sait que les comparaisons avec votre voisin, à la fin, c'est un peu agaçant, quoi. Mais eux, les cognacés, exportent beaucoup. Vous y mettez aussi ? Vous êtes franco-français ?
Alors, nous, on exporte. On est à peu près 50% France et 50% export. Oui, oui, oui.
Alors, Hélène va vous parler que les Armagnac, mais moi, j'ai quand même revenir sur votre vin. Hein, parce que, voilà, on a fait un joli zoom, là. Donc, les vins, c'est une création récente ?
Non, c'est dans les années 70. Le grand-père de Cyril est revenu à la propriété avec le savoir-faire du vin, puisqu'il était régisseur du château Béchevel. Il ne voyait pas d'intérêt dans l'Armagnac et il trouvait ça beaucoup plus excitant de produire du vin. Donc, il a été dans les précurseurs des Côtes de Gascogne avec d'autres familles. Et donc, c'est depuis les années 70. Donc, c'est relativement récent. Oui. Mais dans l'appellation, on fait partie des pionniers.
Hélène ?
Donc, avec les cépages, alors pour le blanc, on reste sur Gros Mansing, Uni Blanc, Colombard. Mm-hmm. Et puis en rouge, Tanat, Merlot et Cabernet Sauvignon. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça, oui.
À part à peu près égal, on est trois tiers à chaque fois, grosso modo ?
Oui, après ça dépend des cuvées sur les blancs, puisqu'on a quand même plusieurs blancs secs, donc on va jouer sur les sables fauves avec un peu plus de gros mansin que le reste. Et après sur les terres basses, on est plus merlot cabernet.
Et on le dit pas assez, mais les Côtes de Gascogne, c'est un super rapport qualité-prix. À combien sont les vôtres ?
On est entre 6 et 9 euros.
C'est pas cher, Hélène. Hein.
Non,
c'est
voilà,
Philippe c'est... aussi. C'est... Ouais.
Et on a toujours de très jolies surprises.
Et ça, c'est à déguster rapido ou alors on peut un petit peu, selon vous, Julie, vous les créez pour être dégusté dans les 2 ans ?
Voilà, exactement, parce que ce sont des vins qui sont sur le fruit, sur la fraîcheur. Donc, effectivement, on est dégusté dans l'année ou l'année dans les 2 ans.
Et qu'est-ce qu'on peut imaginer avec votre blanc, par exemple ?
Les sables fauves, par exemple, ça va très bien sur des huîtres. Ça, c'est un mariage parfait. Ensuite, sur un 100% gros mansin sec, le monsieur, on va être aussi sur un poisson, peut-être plus en sauce, grillé ou des viandes blanches.
Je précise que monsieur, c'est le nom d'une cuvée. Hein, parce que sinon, on ne comprend pas ce que monsieur vient faire dans les soirs.
Cyril n'a pas envie d'être grillé du tout comme un poisson. C'est... Bon, très bien. Allez, vous nous redonnez votre site internet là, parce qu'on va venir vous voir massivement, tous les auditeurs de Une Ville sur Radio.
C'est labelle.fr.
Merci beaucoup, Julie Laudet. Merci également à vous, Hélène Piau, également à Séverine Bourrier, Philippe Forbrac, et puis aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission. Elle a très bien préparé d'ailleurs, ainsi qu'à Sébastien qui est parfait pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner, profitez-en, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et puis surtout respectez la plus grande démodération. Salut.
Sud Radio, Invino.